L'appel de la ruche.
Cette émission est proposée par Florence, du Rucher des Ânes, et Virginie, au secret des abeilles.
Bonjour à tous, c'est Virginie du Secret des Abeilles.
Bonjour à tous, je suis Florence du Rucher des Ânes. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de l'Appel de la Ruche, que vous pourrez retrouver en podcast sur radiogalaxie31.com et vous pouvez nous poser également vos questions sur le mail contact@radiogalaxie31.com. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler des produits dérivés de la ruche, comme la cire, la propolis, le pollen, et des transformations des produits pour en faire du nougat, du pain d'épices. Nous vous donnerons aussi une recette de nougat facile à faire avec un bon miel de notre région.
Tout d'abord, parlons rapidement de l'activité de mes ruches en cette saison. Depuis quelques jours, les gelées matinales ont engourdi mes colonies. Les frelons asiatiques n'hésitent pas à rentrer dans les ruches afin de piller les réserves de mes protégés. Et je n'hésite pas à installer des pièges pour protéger mes colonies.
Oui, alors Virginie, tes ruches étaient attaquées par des frelons. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
En faisant la visite de mon rucher pour l'hivernage, je me suis aperçue que des frelons, malgré les pièges que j'avais installés, rentraient dans mes ruches. J'ai mis des portes anti-frelons ou des grilles anti-frelons. Les frelons arrivaient quand même à passer dans les ruches. Et donc, malgré tous mes efforts, certaines colonies sont mortes à cause de ce prédateur.
Mais tu veux installer des pièges et tu as tout préparé. Que s'est-il passé ? Comment sont-ils rentrés ?
Alors, mes ruches sont dotées de portes anti-frelons, mais ces portes ont l'espace, donc en été, de pouvoir laisser passer les abeilles et sur le côté de pouvoir laisser passer les mâles et la reine pour qu'elles se fassent féconder. Et en fait, les frelons sont assez malins pour passer par cet endroit pour pouvoir rentrer dans les ruches. Ensuite, dans certaines colonies, ils se sont carrément installés dans la ruche et ont refait un nid à l'intérieur, bien sûr en profitant des réserves des abeilles.
Tu veux dire qu'il y a un nid de frelons qui s'est installé dans une de tes ruches ?
Oui, oui, oui. Et j'ai perdu la moitié de mes colonies sur ce rucher. Donc, au total, presque 20 colonies.
Tu as pu repérer l'origine de ces frelons ?
Non, c'est très compliqué de repérer un nid de frelons asiatiques. Actuellement, en cette saison, il y a encore beaucoup de feuilles dans les arbres, donc on ne les voit pas. Et ensuite, les frelons peuvent aussi nicher dans la terre ou dans les buissons. Donc, c'est difficile de les repérer.
C'est intéressant ça, et ça, je pense que ça vaudra le coup qu'on fasse une émission spéciale sur les frelons et comment s'en protéger peut-être.
Oui, bien sûr, au printemps, il faudra en parler pour pouvoir que chacun d'entre nous puisse piéger les reines au moment où elles sortent de terre pour refaire des colonies de frelons.
Merci Virginie.
Dès le mois d'octobre, les abeilles qui naissent au sein de la ruche sont des ouvrières qui assurent la pérennité de la colonie. Chez elles, l'hormone juvénile, celle qui incite l'abeille au butinage, est presque inexistante. Et pour cause, elle n'en aura pas besoin. La réponse des abeilles au froid hivernal est de former une grappe. Toutes agglomérées les unes aux autres, elles se réchauffent. Entre 10 et 12 degrés, leur métabolisme est engourdi, elles sont en hibernation. Pour protéger mes ruches du froid, j'ai donc installé des partitions isolantes afin de tenir la colonie au chaud et j'ai aussi isolé le toit avec un film isolant. J'ai aussi profité d'une rupture de ponte de la reine pour effectuer un traitement contre un acarien nommé le varroa qui peut être nuisible pour la colonie. Je veille aussi à ce que leurs réserves soient suffisantes pour qu'elles passent l'hiver dans de bonnes conditions. Moi, j'ai la chance d'avoir eu une mielée de tournesol qui les a bien aidés à remplir le corps de la ruche pour cet hiver. Pour moi, il est temps de préparer la future saison. Nettoyage du matériel, les cadres sont maintenant réparés, grattés et cirés, c'est-à-dire que j'ai mis une feuille de cire gaufrée afin que les abeilles n'aient plus qu'à étirer la cire neuve dessus. Mais dis-moi, Florence, peux-tu nous en dire plus sur la provenance de la cire ?
L'utilisation de la cire d'abeille est attestée dès la fin du 6e millénaire avant Jésus-Christ. Eh bien, dès le Moyen-Âge, la noblesse et le clergé vont beaucoup l'utiliser pour fabriquer des cierges. La cire d'abeille, dont le nom scientifique est Cera alba, est sécrétée par les abeilles à miel. Elles l'utilisent pour construire les rayons de leur ruche afin d'y stocker le miel, le pollen et leur couvain. Elle est réalisée à partir des écailles blanches et transparentes qui apparaissent à l'ouverture des quatre paires de glandes ciliaires situées sous l'abdomen de l'ouvrière. La nouvelle cire est d'abord limpide et incolore, devenant opaque après la mastication et l'adultération avec le pollen par les abeilles ouvrières de la ruche. En outre, la cire devient progressivement plus jaune ou brun par l'incorporation d'huile de pollen et de propolis. Les écailles de cire ont une largeur d'environ 3 mm et une épaisseur de 0,1 mm. Et environ 1100 sont nécessaires pour former 1 g de cire. Pour que les abeilles cirières sécrètent de la cire, la température ambiante dans la ruche doit être de 33 à 36 degrés. Les cirières consomment 7 à 8 kg de miel pour pouvoir produire 1 kg de cire. Mais ce kilo de cire permettra ensuite de bâtir assez d'alvéoles pour contenir 27 kg de miel. La cire d'abeille peut être extraite des cadres de la ruche, environ 100 à 200 g de cire par cadre fondu, ou des opercules des alvéoles de miel en même temps que l'extraction de ce dernier. Les résidus de cire issus d'opercules ayant été produits par les abeilles dans l'année sont réputés produire une plus belle cire que celle, plus vieille, issue des cadres. La cire d'abeille, notamment celle des opercules, est récupérée par les apiculteurs par fusion à 64 degrés, ce qui permet de séparer la cire de ses impuretés et de ses résidus de miel. La cire peut encore être clarifiée par chauffage, au bain-marie, dans l'eau ou en mettant des bouts de cire directement dans l'eau, ce qui permettra de nettoyer les cires noircies avec le temps. On fait chauffer l'eau et la cire jusqu'à ce que toute la cire ait fondu, en remuant régulièrement. La cire fondant à 64 degrés, il est inutile de faire bouillir l'eau car la cire trop chauffée devient cassante et perd son élasticité. On laisse refroidir le mélange d'eau et de cire jusqu'à solidification de la cire. Lorsqu'on démoule, on a trois phases. La cire solide au-dessus, de l'eau sale en dessous, et entre les deux, une phase d'impureté non soluble, dont la propolis, des bouts d'abeilles, de la poussière, etc., qu'on gratte pour l'éliminer. Certains s'en servent pour piéger les essaims qui sont attirés par l'odeur de la cire. Il est recommandé de recommencer la procédure deux ou trois fois avec la cire ainsi récupérée, pour la purifier de plus en plus. Pour l'utilisation en bougie ou autre, on peut stériliser à 130 degrés pendant 20 minutes. Attention à ne pas dépasser les 180 degrés, température d'évaporation et risque d'inflammation de la cire d'abeille. Elle est comestible en raison de sa toxicité négligeable, similaire aux cires végétales. Elle est approuvée comme additif alimentaire.
Tu sais, Florence, moi, je confie ma cire récoltée à un gaufreur qui va la transformer en cire gaufrée. Feuilles pré-imprimées d'alvéoles qu'on fixe sur des cadres mobiles qu'on glisse dans les ruches. Les alvéoles pré-initiées invitent les abeilles de la ruche à reconstruire leurs rayons à l'intérieur de ces cadres, ce qui facilite la gestion de la ruche pour l'apiculteur.
La cire d'abeille est aussi utilisée par les industriels de la cosmétique pour les produits de beauté comme les crèmes, les lotions, les onguents et les rouges à lèvres. Elle sert également à la fabrication de médicaments, des chandelles et parfois à l'imperméabilisation et traitement d'entretien de certains matériaux comme le bois, le cuir et même le métal. Ses propriétés hydrophobes et antibactériennes en faisaient l'un des principaux ingrédients de la momification par les embaumeurs égyptiens de l'Antiquité. On utilise aussi la cire d'abeille pour traiter les sabots fendus chez les animaux. Elle est conseillée en cas de cicatrices. D'abord, elle possède des propriétés anti-inflammatoires qui apaisent la blessure. Ensuite, comme elle est riche en vitamine A, elle nourrit la peau et facilite la cicatrisation. Elle peut se conserver très longtemps.
Concernant le pollen, celui-ci sert de nourriture aux butineuses, dont il est la principale source de protéines, en particulier pour les larves. Il permet l'identification de l'origine du miel. Le pollen constitue chez les plantes à graines l'élément mobile mâle produit par la fleur. Ce sont des grains minuscules, de forme plus ou moins ovoïde, initialement contenus dans l'anthère à l'extrémité des étamines. C'est simplement la partie mâle de la fleur. Il a un rôle fertilisateur qui est connu dès l'Antiquité, comme en témoignent les gravures sur pierre du palais d'Assurbanipal, représentant des personnages qui secouent les fleurs mâles des dattiers pour recueillir le pollen et féconder artificiellement les fleurs femelles. Le transport du pollen se fait généralement par un vecteur comme le vent ou les insectes. C'est la pollinisation. La plante peut aussi les disséminer elle-même. Les plantes dont le pollen est disséminé par le vent en produisent de plus grandes quantités. Les plantes pollinisées par des animaux en produisent moins. Mais le pollen a plus de chances de se retrouver sur le pistil d'une autre fleur de la même espèce. Pour que la fécondation soit possible, il faut en outre que les étamines soient mûres ainsi que le pistil. Certains producteurs ont commencé à vendre du pollen récolté par les abeilles pour la consommation humaine, souvent commercialisé comme nourriture.
Mais explique-nous, comment l'abeille ramène le pollen dans les alvéoles ?
En venant récolter le nectar, l'abeille emporte du pollen sur son corps qu'elle agglutine en pelote par le mouvement coordonné de ses pattes. Il est courant d'observer chez une butineuse deux pelotes de pollen sur la face externe des tibias de ses pattes arrière. Il existe autant de pollen différents que de fleurs, chacun avec sa propre composition et sa propre valeur nutritive. Pourtant, les abeilles sont capables de sélectionner le plus abondant et le plus nutritif pour la colonie.
Mais comment les abeilles choisissent-elles le pollen ? Qu'est-ce qui les guide sur certaines fleurs et pas sur les autres ?
Les abeilles bénéficient d'un sens de la vue extrêmement développé qui joue un rôle majeur dans leurs recherches. Selon les chercheurs, elles se serviraient des couleurs des fleurs pour déterminer lesquelles butiner en priorité. Puis, elles font appel à un second sens, l'odorat. En effet, ces dernières sont capables de sentir et de goûter à l'aide de leurs antennes constituées de chimiorécepteurs. Toujours selon ces scientifiques, elles privilégient les pollens à l'odeur forte. D'un point de vue mécanique, les abeilles utilisent des mouvements vibratoires pour secouer les anthères des fleurs et faire tomber le pollen. Elles adaptent la durée et la force des coups portés au type de fleurs butinées. Elles peuvent également détecter les champs électriques avec leurs poils mécanosensoriels. Les abeilles déterminent si une fleur a déjà été butinée grâce à son potentiel électrique. Mais au-delà de l'aspect purement mécanique et sensoriel, les abeilles font également appel à des processus cognitifs et sociaux pour trouver le pollen. En effet, une fois le pollen ramené à la ruche, la butineuse effectue une danse. La danse des abeilles. Nous y reviendrons dans une prochaine émission.
Dans les produits de la ruche, nous avons aussi la propolis. C'est une matière résineuse produite par certains végétaux et un matériau complexe fabriqué par les abeilles à partir de cette résine végétale et de cire. Cette résine, elle la trouve sur les bourgeons des arbres. Leur préféré, c'est le peuplier. C'est cette résine qu'elle récolte et ramène à la ruche pour la transformer en propolis. Les abeilles utilisent cette propolis comme mortier. Elle permet de coller, boucher, colmater à l'intérieur de la ruche. En fin d'été, les colonies vont avoir tendance à fermer l'entrée de la ruche à l'aide de la propolis afin d'éviter aux prédateurs et au froid de rentrer. C'est aussi un anti-infectieux qui permet d'assainir la ruche. Une colonie produit 100 à 300 grammes de propolis par an. Le travail de récolte est donc souvent fastidieux et les opérations de purification très délicates. La propolis peut être une gêne car certaines abeilles en mettent vraiment partout et comblent tout avec cette substance. Elles l'utilisent pour le travail d'embaumement. Il n'est pas rare de trouver des insectes recouverts de propolis à l'intérieur de mes ruches. Personnellement, j'utilise dans la saison des grilles à propolis. Celles-ci sont constituées de nombreux interstices que l'abeille va chercher à combler. Cet outil se place sur la tête des cadres. Ensuite, il me suffit de mettre ces grilles au réfrigérateur, car elle devient cassante. Puis ce sera le moment de la récolter, simplement en grattant ces grilles. La propolis est le médicament naturel le plus puissant. C'est un antiseptique, un antibiotique, un antifongique, un cicatrisant et surtout un booster immunitaire. Il y a bien d'autres produits naturels provenant des ruches comme l'apithérapie, l'air de la ruche et le venin d'abeille. C'est aussi des concepts innovants, naturels et écologiques. Cela pourrait être une alternative au traitement actuel, mais pour l'instant, toutes ces méthodes sont encore à l'essai dans les laboratoires.
Pour terminer cette émission, nous partageons avec vous une recette de nougat blanc. Pour cela, il vous faut 600 g de sucre, 400 g de miel, 150 g d'eau, 300 g d'amandes, 3 blancs d'œufs, soit 120 g. Faire un sirop avec l'eau, le sucre et le miel et le porter à 145 degrés. En même temps, monter les blancs en neige. Lorsque le sirop commence à frémir, vers 125 degrés, le verser sur les blancs, jusqu'à ce que le mélange soit desséché. Ajoutez les amandes grillées au four, 10 minutes à 120 degrés. Étalez le mélange entre deux feuilles azimées. Posez un livre dessus pendant 24 heures. Nous vous souhaitons une bonne dégustation et à bientôt.
Merci d'avoir écouté cette émission de l'Appel de la Ruche, que vous pouvez retrouver en podcast sur radiogalaxie31.com. Et puisque c'est la période des fêtes, pensez à aller voir les apiculteurs sur les marchés de Noël. À bientôt.